Vous écoutez les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca, votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir, ou presque, des enjeux d'immigration, de sécurité nationale et de racisme au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. Au micro, votre hôtesse Marie-Ève, et je suis bien sûr en compagnie de mes deux comparses Mathieu.
Bonjour.
Mathieu et Simon.
Salut.
Toujours le pro de la mise en onde. Alors, au programme de notre édition du 14 novembre 2019, le retour de la minute coloniale, mesdames et messieurs, les actualités internationales où nous nous tournerons vers l'Europe, également le drôle de coup de la semaine et évidemment l'agenda antiraciste avec notre sélection de films dans le cadre des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Mais avant, commençons par retrouver Mathieu pour les actualités nationales avec les déboires de Simon Jolin Barrette et Don Cherry. Alors, Mathieu, tu nous fais une thématique bourde aujourd'hui.
Oui, bourde, chute, fouille. J'appelle ça la chute des petits-petits,
oui.
Simon et Donald.
Ben ouais.
Donc, quand même, c'était facile, c'est dans l'actualité, mais je vais essayer de parler un petit peu d'autres choses que ce qu'on a entendu en détail depuis une semaine dans un cas, puis deux semaines et demie dans l'autre. Ben, pour ce qui est de M. Jolin Barrette,
le
tout petit Simon, ben oui, je suis pas très déçu là, qu'il se soit planté en pleine face quand même depuis surtout une semaine. Le PEC, hein, personne n'avait entendu parler de ça avant il y a deux, trois semaines, à part les élés comme moi qui suivent les politiques en immigration. Programme Expérience Québec. Marie-Ève?
Mais c'est un beau nom en plus.
Oui, ça pourrait être un truc de voyage,
oui,
ou un nouveau certificat à l'UQAM, ou ça pourrait être bon,
un spa,
exactement.
Oui.
Donc on nous en a parlé il y a quelques semaines quand il y avait pré-annoncé, il y avait une fuite dans les médias, la question justement de la réforme du PEC et la question du test des valeurs. Puis là, les médias s'en sont emparés plus il y a deux, trois semaines, puis là, je raconterai pas tout ce qui s'est passé. Mais ça, c'est pas une loi, hein. Ces réformes-là, c'est vraiment des règlements qui sont votés au Conseil des ministres, puis il y a pas de débat. En général, ça passe un peu comme ça. Et là, ben, il s'agit que les médias s'en emparent ou pas. Parce que c'est sorti la même semaine que le nouveau test des valeurs qu'on appelle maintenant, Marie-Ève? Simon?
Je m'en rappelle plus.
L'attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs...
De la Charte québécoise des droits et libertés.
Des valeurs québécoises. C'était vraiment proche. Exactement. Test des valeurs qui a été ridiculisé par tout le monde parce qu'il est vide complètement. C'est juste une espèce de formalité qu'ils ont voulu tenir comme promesse qu'ils allaient le faire, donc, etc. Belle phrase, belle syntaxe que je viens de faire d'ailleurs. fait que ça passait un peu inaperçu parce que, ben, évidemment, c'était la grosse affaire du PEC. Et dans la même semaine, je vais le rappeler, je vais en parler un petit peu, il y avait eu aussi la question des seuils d'immigration. C'est toute la même semaine, ça a été annoncé. Petit rappel quand même, parce que c'est important aussi dans le cadre plus général de l'immigration. En 2019, c'est 40 000 personnes qui sont accueillies. Ils l'ont baissé de plusieurs milliers par rapport à 2018. Et là, ils vont leur monter jusqu'à 52 500 en 2022. Donc, ils l'ont baissé une année pour finalement revenir à un peu plus de ce que c'était dans trois ans. Donc, c'est vraiment une autre promesse qu'il fallait qu'ils fassent absolument, mais finalement, ça tient pas la route d'avoir un nombre si peu élevé dans un contexte, mais dans un discours de pénurie de main-d'œuvre, puis la pression des milieux d'affaires. Donc, il y a eu des consultations cet été aussi, puis ça n'a rien changé. Ils ont décidé quand même les mêmes chiffres qu'ils avaient proposés. Donc, en 2020, ça va être à peu près 44 000, dont 26 000 immigrants économiques. C'est ça la différence peut-être qu'il faut souligner. Le plan pour 2020, c'est 26 000 personnes pour la catégorie économique, donc c'est en augmentation. Regroupement familial, ça va être à 10 000, donc en diminution par rapport aux dernières années. Réfugiés à 7 500, un peu en diminution aussi. Donc, c'est un peu ça le nœud des seuils qui est intéressant à analyser. Et j'ai quand même deux petites citations qui prédisposait un peu ce qui allait arriver à notre ami Simon JB. Il dit, dans le cadre de ces seuils-là, j'ai pas fait la sourde oreille, j'ai fait quand même des vraies consultations. On voit ce que ça donne. Et il répondait aussi au milieu d'affaires.
C'est quoi, oui, sur sa page Facebook avec ses...
Non, dans les médias, un point de presse.
Oui. Ça, c'était mon oncle François, ça.
Non, oui. Mais je parle de la consultation.
Oui, là, ça, j'avoue que c'est peut-être, oui, des rencontres particulières.
Mais t'as raison, Simon, c'était mon oncle François qui disait que c'est comme ça qu'il consulte son monde.
Le fantôme de mon oncle François qui est toujours là en arrière de Jolet Barrette. Et l'autre citation qui était drôle, c'est qu'il répondait au milieu des affaires qu'il voulait qu'il y ait un plus grand nombre d'immigrants qui rentrent à chaque année. On va faire les choses de façon ordonnée. Puis ça, c'était pris, ça prédisposait ce qui est arrivé, évidemment.
Oui, mais c'est ça. Alors que c'est pas du tout le chaos qui s'en est ensuite. Ben non. C'est suivi, tu sais.
Puis pour finir sur les seuils, la proportion d'immigrants économiques, donc, va passer de 57 % en 2018 à 65 % en 2022. Fait que c'est là un peu le nœud de la chose. Et évidemment, pour la question du regroupement familial et des réfugiés qui veulent baisser, il faut qu'ils s'entendent avec Ottawa, mais ça, c'est en train de se faire. La même semaine, Marie-Ève aussi, autre annonce qui a passé dans le beurre, le programme d'immigrants investisseurs. Qui était toute la semaine de l'Halloween, d'ailleurs. Du pas d'Halloween, mais donc, le programme qui a été suspendu jusqu'en juillet 2020, qui est réservé aux immigrants millionnaires ou milliardaires et étrangers, bien, immigrants, évidemment, qui pouvaient recevoir plus vite le CSQ, le Certificat de sélection du Québec, en faisant
un prêt. En prêtant de l'argent au gouvernement.
Au moins 1,2 million qu'on prête à Investissement Québec pendant 5 ans. Et on nous remet cette somme-là sans intérêt et ensuite on a la résidence permanente. C'est vraiment un fonctionnement, ça a été dénoncé souvent. C'était quand même 2000 places par année sur les 26 000 économiques, c'est quand même beaucoup.
Est-ce que c'est si cher payé pour faire l'expérience Québec?
Oui, et avoir la crème de la crème quand même des investisseurs, c'est sûr. Donc, finalement, ben, il y a eu des reportages d'enquête, il y a eu plusieurs personnes qui ont dénoncé ce programme-là, autant au Québec qu'au Canada, beaucoup d'anomalies. Donc, on a décidé de le suspendre pour le réviser. Je sais pas ce que ça va donner, s'il va revenir. Mais il y avait eu un chiffre intéressant qui était sorti, c'est qu'entre 2008 et 2017, seulement 16 % de ces immigrants investisseurs étaient bel et bien au Canada. Donc, il y avait la résidence où ils en profitaient pour faire des investissements, faire des profits, mais on sait très bien que c'est un peu n'importe quoi. Ça apporte aucun avantage à qui que ce soit là, au Québec.
Ça a apporté des avantages aux promoteurs immobiliers beaucoup à Vancouver, beaucoup à Toronto et de plus en plus à Montréal parce que c'est de la spéculation. Ça leur permet d'acquérir une certaine sécurité. Mettons, j'ai comme refuge le Canada, par exemple, et en plus, j'ai un logement.
Mm-hmm.
Et ça fait faire beaucoup d'argent, ça, à des promoteurs de grosses tours à condos.
Ben merci pour l'information, Simon. Puis c'est sûr que ça se passe. C'était beaucoup les immigrants asiatiques, donc sans faire de lien là, facile, là, mais c'est sûr qu'il y avait cette partie-là au niveau de l'immobilier. Donc voilà pour ce programme-là qui a été suspendu. Je voulais juste faire un petit résumé donc de ce qui se passe avec nos amis de la CAQ, la méthode Legault que Jeannette Barrette applique de façon militaire, on peut le dire. On l'a vu, là, livrer les promesses pour plaire à sa base, peu importe la pertinence, les conséquences, le plus vite possible, en faisant de fausses consultations fermées, expéditives. On a l'exemple du projet de loi 40 en éducation actuellement, qui a une semaine d'audience pour un projet de loi qui change 66 lois au Québec, qui a 390 articles. On parle entre autres des commissions scolaires. Donc, éliminer les contre-pouvoirs, utiliser des méthodes autoritaires comme le bâillon. C'est sûr qu'on ne se cachera pas qu'on a savouré de voir notre petit baveux arrogant préféré se casser les dents, mais ça aurait... Tant qu'à moi, ça aurait été plus important qu'on se réveille le printemps dernier quand il y a eu la vraie réforme de l'immigration. Oui, le projet de loi 9, c'était vraiment la vraie réforme de l'immigration. La réforme de Dupec, c'était un peu une partie. Et il y a eu le projet de loi 21, quand même aussi, sur la laïcité. Puis les deux sous bâillon. Donc ça, c'est le vrai scandale, tant qu'à moi. Et puis, je voulais quand même vous citer les larmes de crocodile de notre ami... Il y a deux jours, mardi, 12 novembre, qu'elle s'est excusée en partie. Je vais vous citer les citations, vous allez rire si vous les avez pas entendues. J'ai voulu aller rapidement. J'aurais dû prendre davantage mon temps pour consulter davantage de gens. Ça, c'est dans son mea culpa.
Parce que mon jeune barrière.
Oui, on parle de, oui, je parlais du petit baveu arrogant, parce que lui, c'était pas précis. Effectivement, j'aurais dû mieux faire les choses. Pour la prochaine fois, je vais m'améliorer. Une telle erreur ne se reproduira pas, a-t-il dit, précisant ne pas avoir remis sa démission au premier ministre. Il a dit ça en même temps.
Oui.
S'il n'a pas voulu présenter des excuses aux personnes visées par ces mesures, il a accepté d'en faire auprès des Québécois en général en raison de la suspension de la réforme en immigration. Fait qu'il s'excuse auprès de toi, Marie-Ève, parce qu'il n'y a pas eu de réforme, mais pas auprès de ceux de qui, avec qui ça a des grosses conséquences.
Non,
exactement,
oui.
Ben, si je peux me permettre, d'ailleurs, il y avait eu des étudiants étrangers qui sont allés à l'Assemblée nationale, qui étaient dans les tribunes, et il a refusé de les rencontrer. Donc, ta thèse marche très bien.
Là. Oui, mais ça, c'est même avant, tu sais, avant que ma prochaine phrase... Dès le moment où j'ai été sensibilisé à la réalité des étudiants internationaux, j'ai reculé.
Ben oui.
Hein?
Ben oui.
Écoute, hein? Des
non,
menteurs.
Mais on recule en a...
Des
on...
menteurs et oui. des amateurs.
Oui, c'est ça.
J'ai reculé l'heure. En tout cas, il manquait
non, non, mais c'est vraiment. C'est faire des affaires pour faire des affaires, là, tu sais,
ben oui.
C'est n'importe quoi.
Tout à fait. Et breaking news aujourd'hui, Marie-Ève et Simon.
Oui.
14 novembre, la Gazette officielle du Québec a publié les anciennes. A annoncé que les anciennes règles du programme du PEC revenaient en vigueur, hein, comme ça avait été annoncé en suspendant
ouais,
la réforme
vendredi
ouais. dernier. Mais gardez bien la petite patente que j'ai vue. Le nouveau décret du gouvernement stipule que toute demande qui a été faite entre le 1er et le 13 novembre sera néanmoins évaluée en vertu des règles édictées par la controversée réforme. Fait que ceux qui ont déposé leur demande pendant les deux semaines où c'était l'entre-deux...
Que c'était le bordel, moi.
Eux autres, ils vont être soumis aux règles...
Mais voyons
donc. Ben oui, c'est dans la Gazette officielle aujourd'hui du Québec au niveau du décret.
Puis pour les fonctionnaires qui essaient de traiter les dossiers, ce sera pas évident.
Non, c'est ça.
Ben non,
mais
écoute, quelles règles, au juste, c'est ça. Ben, non, les fameux programmes et tout, fait que... Il lâche pas, il continue quand même à s'obstiner. Enfin, mais bon, vous le connaissez, donc j'ai pas besoin de faire un dessin. En terminant, si j'ai le temps, je ferais juste pour Donald Cerise, notre ami, notre ami de hockey, un ancien entraîneur de hockey professionnel. Je vais pas vous parler de ce qui est arrivé, les gens le savent, mais je voulais
non,
juste
ça.
Vous souligner que la revue Liberté en 2018 a sorti un numéro qui s'appelait Avec ou contre nous. Et il y avait un article qui s'appelait L'archidiacre populiste du patriotisme canadien qui traite de Don Cherry. Et je voulais vous lire un petit extrait de l'article. Si vous voulez aller le voir sur Internet, il est disponible. Donc, il opère ainsi comme provocateur de débat autour de ce que signifie être un vrai Canadien dans le contexte néolibéral. Ses costumes outranciers, incluant ses habits aux imprimés colorés et criards, ou inspirés de la chemise à carreaux traditionnelle, ses cravates à l'effigie des agents de la GRC, ses chapeaux de carnaval, souvent bardés de la feuille d'érable, ajoute une dimension caricaturale et le présente tel un masque grotesque du patriotisme canadien. La liste de ses phrases est interminable. Il est certainement l'une de ces personnalités que le public aime haïr et il en sert en partie de repoussoir efficace. Il répète que les femmes n'ont pas leur place dans les vestiaires sportifs, que les Québécois sont des chialeux, que le vrai hockey est une affaire de rudesse et donc d'hommes hétérosexuels. Dans son segment ou alors dans des publicités de produits sportifs, on le voit naturaliser des stéréotypes comme les joueurs qui donnent en finesse plutôt qu'en rudesse devraient laisser leur patin à leur sœur et aller faire du ballet. Les joueurs qui refusent de se battre ne sont probablement pas des vrais hommes hétérosexuels. Donc, à plusieurs reprises, il a dû offrir des excuses publiques, mais tout le monde a dit que ça fait longtemps que cette ordure-là aurait dû être sortie des ondes. Et d'ailleurs, la pétition qui a été lancée pour l'appuyer, savez-vous c'est qui l'anime, cette pétition-là? Le média The Rebel, qui est un média d'extrême droite.
Ouais, non,
donc, ça dit tout du personnage. Donc, je pense pas qu'il y ait ben plus à rajouter sur Donald Cerise.
Non, peut-être à part dire que peut-être qu'on aurait pu parler aussi un peu plus de l'hypocrisie de CBC qui l'a toléré pendant toutes ces années. T'sais.
Et de Ron McLean, son co-animateur, aussi, tout à
voilà.
fait.
Voilà. Ben merci Mathieu
fait
pour
plaisir.
Ce petit tour de bourrasque canadienne et québécoise. On s'en va en musique avec Saramé et la pièce Bonne Dame et ce sera suivi de votre chère Minute Coloniale.
J'envoie le salam à tous ceux qui n'y croyaient pas. Arrêtez ça là, je connais le chef. Y'a tellement de samouraïs que je sais même plus ce qui est vrai. Dans mon verre, un peu de cocoloso. T'envoies des DM maintenant qu'on fait des dîners. Baby, dis-melo, dis-melo. Dans mon verre, j'ai mis de l'eau. Dis-melo. Ça t'a fait, on est fraîche, double cop dans les fêtes. Nangle Jeff, on est fraîche, double cop dans les fêtes. Connais ton adversaire, mais surtout connais-toi toi-même. 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 Light the fire, burn them, burn them, burn them, Lego baby. Burn them, burn them, burn them, Lego baby. Cacher la réalité un peu vide. Une bouteille dans le vide, quelques violets, ça frime et tu joues mal dans ton film. Y'a pas de montage dans la vraie vie. Faut qu'on me concert, tu veux plaire à tout le monde. Je fais déjà le tour de la terre à peine sorti de l'eau. Tu connais le nom, venu de l'ouest, elle tire plus vite que son nom.
Les apatrides anonymes vous présentent la Minute coloniale. Dans le Canada français, l'on peut librement exprimer notre affection envers les indigènes grâce à de petits sobriquets espiègles d'une grande douceur. En effet, notre belle langue peut s'enorgueillir d'intégrer à son riche vocabulaire romano-germanique une multitude d'emprunts et de références aux sous-dialectes autochtones et à leurs us et coutumes. Ainsi s'en trouve favorisé le vivre ensemble et la tolérance envers les pauvres peuplades qui nous ont précédés dans ce nouveau monde. Ce monde obscur, autrefois inexistant, puis finalement découvert par les explorateurs européens qui ouvriront la porte à l'évangélisation, apportant lumière, progrès et confort à ces tribus locales, occupant ce territoire hostile de façon éparse et bien désorganisée. Appeler nos braves congénères des peaux rouges est un signe d'admiration face à ce teint vif et sain, attribut secrètement jalousé par nombre d'Occidentaux au teint blafard et verdâtre, qui, contrairement à leurs vis-à-vis autochtones, vivent dans des habitats permanents, à l'abri des rayons du soleil, cet astre fixe, naïvement adulé par nos sympathiques amis fumant la babiche dans leur calumet de la paix entre deux blés d'Inde. Le mot « Esquimau », de son côté, rappelle les rudes habitudes gastronomiques des hordes du Grand Nord dévorant animaux vivants, et quant à lui, le bisou Esquimau, ce chaste nez à nez qui convient à toute la famille, est ce geste d'affection si mignon, si croquignolet, qu'il s'échange gentiment sous l'igloo, ce tipi de glace ou au bord du feu, alors qu'à l'extérieur, les aurores boréales dansent dans le ciel étoilé, veillant sur le sommeil de nos bons Indiens d'Amérique. Les termes « squaw » et « papoose » ne manquent pas de souligner toute notre tendresse, rendant un vibrant hommage à ce qu'il y a de plus précieux dans la vie humaine, la femme et l'enfant. Les voir déambuler en mocassins et coiffés de plumes, en file indienne, ne manquent pas de pimenter le pittoresque de nos grands espaces sauvages. Le terme « sauvage », comme dans « se comporter en véritable sauvage lorsque vos voisins font un pow-wow aux petites heures de la nuit », ne provient pas des langues amérindiennes, mais est dérivé du latin « silva » et désigne poétiquement « celui qui habite la forêt ». L'on peut donc le rattacher à tout ce qui est sylvicole ou champêtre, par exemple la traîne sauvage, sympathique moyen de locomotion hivernale, les baies sauvages, délicates et délicieuses qu'on peut intégrer au thé sauvage, ou encore le feu sauvage, autre produit de l'amour fraternel entre nos cultures. Voilà quelques-unes des manières de parlure de par chez nous qui, espérons-le, perdureront pour la nuit des temps et jusqu'au terrain de chasse éternel. C'était la Minute coloniale présentée par les apatrides anonymes.
Et oui, on est de retour en onde avec Simon qui nous concocte toujours des perles de... pittoresque, oserais-je dire, de notre passé colonial.
C'est comme des plates-bandes, je sais pas trop comment qualifier ça, mais celle-là était peut-être un peu limite, là, je m'excuse. Non, ça va.
Non, ça va. Je pense que il faut voir au-delà du peut-être rendu au cinquième degré.
Ah, oh, je sais pas trop quelle couche d'atmosphère, mais le but, évidemment, c'était de démontrer une certaine banalisation dans l'utilisation de clichés, de termes racistes envers les Autochtones. Surtout autrefois, je pense que c'est peut-être un peu moins pire aujourd'hui, dans la forme du moins, dans le fond, je crois pas que ça se soit tant que ça amélioré. Tu sais, tout ce qui est plume, calumet, tipi, powwow, faut éviter de penser que toutes les nations autochtones se servent de ce genre d'attributs-là. Il y a plein de nations très différentes les unes des autres. Des fois, c'est utilisé par certaines personnes dans certaines nations, dans certains contextes très particuliers. Le mot sauvage, je pense que tout le monde est d'accord qu'on n'utilise plus ça. Pas besoin vraiment de l'expliquer. Si on regarde dans le dictionnaire, ça veut aussi dire le contraire de civilisé.
Ouais, non, c'est ça.
Puis c'était vraiment utilisé dans ce sens-là pendant des décennies, des siècles. Donc, heureusement, je pense que c'est déjà bien intégré dans la société qu'on ne doit plus utiliser ce terme-là pour désigner les autochtones.
Oui, parce qu'on disait même des coureurs des bois ou des trappeurs, tu sais, qui allaient rejoindre, disons, des communautés autochtones à l'époque qui s'en sauvageaient, tu sais.
OK, alors, on pouvait même conjuguer le... Oui, c'est vrai, je me sens que j'ai déjà entendu ça aussi. La seule façon directement reliée aux Autochtones que je crois qu'il est encore utilisé, c'est « traîne sauvage ». Moi, je suggérais d'utiliser « traîneau » ou même « toboggan », on va avoir l'air moins colon comme
ou luge.
Ça. « Luge ». « Luge », merci Marie-Ève, un vrai dictionnaire sur deux pattes. « B sauvage »,« T sauvage », tout ce qui se rapporte aux fruits, à des plantes, ça, évidemment, il n'y a pas de problème, ça n'a aucune connotation autochtone, ça veut juste dire ça vient d'un environnement, ça pousse dans un environnement naturel. Amérindien, indien d'Amérique, c'est non aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui le savent peut-être pas. Amérindien, je l'entends même dans des grands médias encore des fois. Ça rappelle l'erreur géographique des Européens qui croyaient avoir trouvé un passage pour l'Inde, mais on dit pas ça. Tout simplement, ça désigne pas du tout, ça a aucun rapport avec la réalité. File indienne.
Ça c'est un peu pire, oui.
C'est probablement issu du dernier des Mohicans. Qui est pas vraiment une référence en matière d'histoire autochtone. Hein.
Pas vraiment, non.
Blé d'Inde, par contre, un peu comme B sauvage, T sauvage, je crois pas que ça pose problème. Je crois pas qu'on peut insulter une céréale. Et ça fait pas référence aux Autochtones, ça fait vraiment référence à cette céréale-là. Donc
Et à l'erreur originelle.
Exactement.
Des colonisateurs qui pensaient arriver en Inde.
C'est ça, des explorateurs sans impliquer les nations autochtones qui existaient ici. Pour désigner les peuples autochtones, le terme autochtone y est correct, ou Première Nation. Mais encore mieux, c'est l'appellation qui désigne le groupe linguistique général comme algonquin, iroquoien. Mais si on veut vraiment être le plus legit, le plus adéquat, je dirais, le plus respectueux, c'est de nommer les nations d'où viennent. Des nations qui sont pas très connues non plus, donc ça peut ouvrir un dialogue, ça peut forcer les gens à apprendre des choses. Donc les nations, ben au Québec, il y en a plusieurs. Évidemment, on peut parler des Mi'kmaq, on peut parler des Mohawks, par exemple. Donc nommez-le. Moi, c'est ce que je suggère. Où est-ce que je suis rendu? Esquimau. Ça aussi, c'est non. C'est un terme péjoratif depuis le début. On n'utilise pas ça. Même chose, évidemment, pour squaw, papouse. Ça, c'est franchement... Surtout pour squaw, qui non seulement c'est réducteur et infantilisant, mais surtout sexiste, avec des connotations sexuelles franchement dégueulasses. Puis en plus, on n'a aucune idée d'où ça vient. C'est probablement des dérivés inventés par des Blancs. Puis c'est dégradant au point où on débaptise même des noms de lieux. Au Canada, il y en a plusieurs qui portent le mot squaw. En Colombie-Britannique, on en a enlevé plusieurs comme Squaw Creek, Squaw Mountain. On est tout en train d'effacer ça, et heureusement. Ça n'a pas empêché une compagnie de design canadienne qui s'appelle Dean et Dan Cann, je ne sais pas si je prononce bien, de présenter à Milan en 2015 une ligne de vêtements féminins appelée D-Squaw, inspirée, soi-disant, des traditions autochtones. Donc, on les félicite et on les boycotte. Peau rouge ou cependant anglais encore plus répandu comme Redskins, Redman... C'est aussi considéré comme offensant et raciste au point où McGill récemment, je pense que c'est terminé le changement de dénomination, mais toutes ces équipes sportives à peu près s'appelaient les Redmen. On a changé ça pour McGill Team, pas très original, ou McGill Martlets. Martlets, ça désigne une sorte d'oiseau, si je me trompe pas. ça s'est quand même appelé Redman pendant des siècles à McGill. Puis McGill, on sait qu'a joué un rôle très important dans la colonisation aussi. Il y a encore les Redskins de Washington, D.C., grosse équipe de football. Par contre, et malgré les pressions, on n'entend pas changer de nom. Il y a sûrement plein d'autres dénominations avec des références autochtones à saveur raciste que j'oublie, mais ce sera peut-être pour une autre chronique. Il y a plein de mots dans la langue québécoise, dans le québécois, dans l'anglais, tout ça, qui ont des dénominations racistes par rapport aux Noirs. On en parlera, et peut-être, oui, avec un invité autochtone ou un invité d'une culture qui est souvent offensée, peut-être ce serait bien pour une autre chronique pour développer davantage.
Ben merci, Simon, pour ce petit traité du vocabulaire raciste.
Ça fait plaisir.
Marie-Ève, toujours au micro, et vous êtes sur les ondes de choc.ca et vous écoutez Les Apatrides Anonymes. On vous parle maintenant on vous amène en Europe pour les actualités internationales. D'abord en France, le premier ministre français Édouard Philippe a présenté le 6 novembre dernier 20 mesures qui constituent les grands axes de sa politique migratoire, qu'on pourrait résumer ainsi: quotas, contrôle et lutte contre la fraude. Ces mesures avaient pour la plupart déjà été annoncées ou étaient même déjà en vigueur pour certaines, mais cette annonce-là permet au gouvernement de montrer qui occupe le terrain là, concernant l'immigration. On va voir aussi, vous verrez que plusieurs de ces mesures-là ressemblent étrangement au programme de la CAQ dont on a parlé un peu là dans les actualités nationales et québécoises tout à l'heure. Par exemple, la question des quotas, hein, que le gouvernement français qualifie de relance d'une politique d'immigration économique. Vous voyez, déjà, on voit un lien là, de parenté avec le programme de la CAQ, ou en tout cas avec les dernières annonces qui ont été faites par la CAQ. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a donc annoncé qu'elle allait établir des objectifs chiffrés d'accueil de nouveaux arrivants dans certaines filières professionnelles, dont la liste, qui date de 2008, sera actualisée dès l'été prochain. Donc, comme pour la CAQ, hein, le but est d'arrimer l'immigration avec les besoins du marché du travail, le tout en concertation avec le Pôle emploi et des partenaires sociaux. L'idée est évidemment de fixer les besoins par métier et même par territoire. La ministre a donné cet exemple caricatural, j'ouvre les guillemets. C'est les partenaires sociaux et les régions qui diront, par exemple, en Alsace, on manque de charpentiers.
Mais tu vois, si je peux me permettre, déjà sont plus wise que le gouvernement Legault qui consulte pas pantoute puis qui arrive avec une liste d'épiceries de je sais pas, 214 programmes sans avoir consulté absolument personne. Et donc, ça risque de mieux passer peut-être leur réforme en
France. Oui, mais en même temps, c'est pas clair parce que vous allez voir, tu sais, pour déterminer aussi, ils disent que c'est en consultation, sauf que pour déterminer arrimer c'est tout ça, comme la CAQ, le gouvernement français va miser sur les outils technologiques, hein, mais avec quand même un petit peu plus d'ambition que le fameux ARIMA. En fait, c'est qu'ils veulent créer un outil statistique qui devrait permettre d'avoir une lecture en temps réel, OK, des besoins économiques locaux, des métiers qui justifient de pouvoir faire appel à des compétences extérieures. Je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont faire ça, sérieusement, j'ai vraiment... T'sais, avec quel genre d'algorithme ou je sais pas trop, mais d'avoir une lecture en temps réel des besoins économiques locaux, j'ai un peu de difficulté à me figurer comment c'est possible d'arriver à ça. Mais bon, aujourd'hui, l'immigration professionnelle en France représente chaque année autour d'à peu près 30 000 30 000 titres de séjour, sur un ensemble qui tourne autour de 260 000 titres délivrés. Donc, c'est quand même une proportion assez faible. Il y a d'autres mesures également qui avaient déjà été dévoilées, mais qui sont similaires à certaines annonces aussi faites par la CAQ. Par exemple, l'évaluation du niveau de français exigé pour la naturalisation. Et l'ouverture d'un grand chantier de simplification des procédures de demande d'asile pour diminuer les délais d'attente qui sont actuellement en France de 12 mois en moyenne. Comme je le disais plus tôt, il y a plusieurs des mesures annoncées qui visent à lutter contre la fraude, plus particulièrement ce qui concerne l'accès aux soins. Le gouvernement estime qu'il existe un tourisme médical de la part de migrants qui sont attirés par la gratuité des soins en France, qui est un discours qu'on entend aussi régulièrement de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc, pour y remédier, on mettra en place deux mesures qui avaient déjà été dévoilées il y a quelques semaines. La première étant que les demandeurs d'asile devront maintenant attendre 3 mois avant d'avoir accès à la protection universelle maladie, c'est-à-dire l'équivalent de la RAMQ ici, alors que jusqu'à aujourd'hui, ils avaient accès dès l'enregistrement de leur demande. Les demandeurs d'asile vont quand même continuer d'avoir accès avant ce délai-là de 3 mois aux soins urgents. Et il y a aussi un décret qui va réduire la durée de maintien de la protection universelle de 12 à 6 mois pour les demandeurs d'asile refusés. Dans ce même esprit, il y a les sans-papiers qui peuvent aujourd'hui bénéficier de l'aide médicale d'État, l'AME, après 3 mois de présence sur leur territoire, ce qui leur donne accès à un panier de soins moins grand quand même là, que la protection universelle. Le gouvernement souhaite qu'il y ait un croisement des fichiers de l'AME et des demandes de visa pour, je cite, « éviter que des personnes n'entrent sur les territoires avec un visa afin d'obtenir l'AME immédiatement à son expiration ». Puis aussi, dans les 9 premiers mois où les personnes qui bénéficient de l'AME, il y a un certain nombre de soins urgents là, qui vont être exclus, qui seront plus couverts, qui seront plus pris en charge, notamment des trucs comme les prothèses de hanche ou de genoux, les cataractes, etc. Il y a aussi, toujours en ce qui concerne la fraude, entre guillemets, le gouvernement veut empêcher par décret la perception rétroactive du revenu de solidarité active, le RSA, pour d'anciens bénéficiaires de l'allocation pour demandeurs d'asile, ce qui était le cas jusqu'à maintenant. Oui, Mathieu?
On est quand même dans le renforcement des préjugés là, avec ces mesurettes-là qui identifient des problèmes mais qui participe au discours de stigmatisation.
Mais oui, tout à fait. Puis comme la logique reste toujours la même aussi, c'est-à-dire qu'on punit tout le monde pour les excès de certaines personnes, tu sais. Mais évidemment, cette logique-là, elle s'applique toujours aux plus démunis, mais jamais aux plus riches, tu sais. C'est toujours aussi cette même logique-là.
Mais ce genre de préjugé-là est entretenu beaucoup par la droite et l'extrême droite en France, comme quoi les immigrants, c'est des profiteurs, puis il y a beaucoup de fake news là-dedans.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Mais les partis aussi centraux, comme celui de La République En Marche.
Ben, comme je dis, c'est une série de mesures, tu sais, qui est pour moi. C'est un peu comme la façon de fonctionner de la CAQ ici, dans le sens où on fait des affaires pour montrer qu'on fait des affaires, tu sais, mais en même temps, ça règle aucune des problématiques.
On fait semblant de répondre à des supposés problèmes.
C'est
là.
Ça. Ouais. Le gouvernement français a aussi annoncé vouloir lutter contre les campements de migrants. Hein? Et encore une fois, là, c'est la logique de la répression et de l'enfermement qui s'applique. C'est-à-dire qu'ils vont construire à partir de 2020 3 nouveaux centres de rétention administrative avec de très grandes capacités d'accueil, à Lyon et à Bordeaux notamment, où il y aura 140 places chacun. Ainsi qu'à Olivet, près d'Orléans, qui a 90 places. Le but, améliorer le taux de reconduite aux frontières, évidemment, qui en soi résume assez bien la politique migratoire française, finalement. on reste en Europe cette fois-ci. Je vous parle de Le 8 octobre, il y a le Conseil européen qui a discuté d'un projet pilote qui viserait à mettre en place un nouveau mécanisme européen de débarquement et de sauvetage en Méditerranée, hein, pour gérer là, les nombreux bateaux de sauvetage puis les personnes qui se trouvent sur ces bateaux-là, évidemment. Projet qui a suscité la déception, mais je dirais même l'indignation des principaux organismes de défense des droits des personnes migrantes. Il y avait eu un préaccord, ça niaise depuis longtemps là-dessus, tu sais. Il y a eu un préaccord qui avait été trouvé en septembre entre la France, l'Allemagne, l'Italie et Malte. C'était un accord pour une durée de 6 mois et puis qui pouvait être éventuellement prolongé. Cette fois, il y a 4 nouveaux États qui se sont engagés à faire partie de ce projet pilote, soit le Luxembourg, l'Irlande, la Lituanie et le Portugal. Puis en parallèle, il y a Chypre, la Bulgarie et la Grèce qui ont approuvé le principe sans s'engager là dans l'accueil des personnes débarquées, évidemment. La principale critique vient du fait que le nouveau mécanisme apporte absolument aucune réponse à long terme au drame qui se passe en Méditerranée, puisque, comme je le disais, encore une fois, là, il va demeurer temporaire, c'est-à-dire 6 mois renouvelables. En plus, il est flou, ce mécanisme, et il est basé sur le volontariat. Donc, par exemple, la participation des États membres signataires de l'accord est susceptible d'être suspendue à tout moment en cas de pression migratoire disproportionnée. C'est les termes exacts sur leur territoire. Mais cette pression migratoire disproportionnée-là est à peu près pas définie. Puis est déterminé à partir de critères hyper flous aussi, tels que la limite des capacités d'accueil, que on sait pas non plus comment ça s'est déterminé, ou encore le nombre important de demandes d'asile dans les États concernés, tu sais. Fait que c'est un peu comme le fou la poule, là, on tourne en rond. En plus, le mécanisme entier est susceptible d'être suspendu si le nombre de personnes relocalisées grâce à celui-ci augmente substantiellement. Fait que c'est ça, fait que c'est...
Ça donne toute la marge de manœuvre pour faire n'importe quoi, dans le fond.
Oui, c'est ça. L'accord prévoit aussi, bon, on parlait des bateaux, évidemment, certaines obligations pour l'ensemble des bateaux qui mènent des opérations de sauvetage, c'est-à-dire pas entraver les opérations de recherche et de sauvetage menées par les navires des gardes-côtes, incluant la garde côtière libyenne, et le renforcement des capacités des gardes-côtes des États tiers au sud de la Méditerranée, tout en encourageant apparemment le respect des droits de la personne. Mais ces dispositions-là sont vraiment inquiétantes dans la mesure où elles viennent confirmer la coopération accrue avec les autorités libyennes, alors que les risques pour les personnes migrantes débarquées dans ce pays-là sont vraiment connu. Un exemple qui est arrivé dernièrement, le 26 octobre, il y a eu une altercation entre l'ONG allemande CI et une présumée milice libyenne qui a eu lieu en mer Méditerranée au large de la Libye. Alors que le navire Alan Kurdi, qui était affrété par CI, procédait au sauvetage de 90 migrants en détresse sur une embarcation, il a été pris à partie par des individus à bord d'une vedette qui battait pavillon libyen. En plus, autre problème avec ce nouveau mécanisme, c'est que, à l'exception du renforcement de la surveillance aérienne européenne de la Méditerranée, l'accord mentionne absolument aucun équipement européen qui serait dédié à la mise en œuvre des opérations de secours et au sauvetage, puis évoque pas non plus le rôle essentiel des ONG qui mènent ces campagnes, ces sauvetages en mer. Bref, on accélère aussi les processus là de traitement après les débarquements. Ce qui est inquiétant aussi parce que ça laisse supposer qu'il pourrait y avoir un premier tri des personnes secourues avant même le débarquement du bateau. Bref, pour la CIMAD, qui est une association de solidarité avec les personnes migrantes, ce mécanisme-là s'apparente à l'approche hotspot développée par l'Union européenne depuis 2015. Vous savez, cette approche hotspot, c'est la mise en place de centres d'identification et de tri pour les personnes aux frontières, puis qui s'est surtout matérialisé en Grèce et en Italie avec un échec assez retentissant. Donc, on va vous tenir au courant quand même de des développements parce que, ouais, c'est ça. Évidemment, c'est toujours la même histoire. Les différents pays de l'Union européenne se renvoient la balle, mais il n'y a rien qui change. Sur ce, on va aller en musique, toujours avec le groupe français Trio et la pièce « Sortez les poubelles ».
Donnez-nous des jeux les plus malsains.
Oh oui, j'en veux.
Allez, enfermez-les. Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer. Qu'on les voit mourir. Éjecter, lyncher pour le pire. La cage au milieu du salon aime avoir les fauves tourner en rond. Et se déchiqueter pour juste une poignée de fric. Rentrez dans le moule de l'Amérique. Allez, saignez-vous donc en musique.
Donnez-nous du lisse, de la guimauve ou du réglisse. Donnez de l'image à bouffer, pré-mâcher et prédigérer.
Donnez-nous du vice, surgelez nos vieilles idées. Vive mon frigo, vive ma télé. Il est plus vide qu'elle est blindée. Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sortez-les, 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 sortez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
La thune qui vaille, noyez-nous de publicité, engraissez-nous jusqu'à
éclater.
Mettez-nous les nerfs, étalez les femmes et leur chair, blindez des plus beaux apparats, excitez-nous. Hâtez vos sponsors, à tout bout de chance, ça pue la mort. Gerbez nos envies, nos désirs,
empêchez-nous de partir.
Donnez-nous du vice, bouchez les escaliers de service, allez séquestrer nos esprits, souriez, tout est permis.
Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Et tous les meubles en sont jaloux, même mon chiot en est devenu fou.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles.
Sortez les ordures télévisuelles.
Sentez-les, 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 sentez-les au ciel.
Oh non, je suis accro.
Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût.
Donnez-nous du pire, passez notre envie de réfléchir à coups de concepts débilissimes. Allez, crachez-nous vos millésimes.
Je suis accro.
Conservez les coquets ou bien ronds, c'est le zoo des animateurs. Leur donnez pas de bouffe,
c'est pas l'heure.
C'est l'heure de sourire, servir de la niaiserie à mourir, à nous goinfrer, à nous gaver. C'est pour nous, c'est pour nous.
Divertir.
Donnez-nous de la meuf, décolorez-les en jaune de phare. Et souris-moi, et faites gicler vos proies.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles.
Sortez les ordures télévisuelles.
Sentez-les, 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 sentez-les au ciel.
Oh non, je suis accro.
Donnez-nous des stars de celles qui crachent dans leur bavoir. Et filmez leurs fêtes minables au fin fond de leur bac à sable. Et lâchez vos bombes de celles qui sont nauséabondes. Inondez nos vies, nos foyers. Vous êtes si présents qu'on est teubés.
Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir.
Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à vous.
Tirez vers le bas, ma télévision adore ça.
Et tous les meubles en sont jaloux, même le chiot en est devenu.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles.
Sortez les ordures télévisuelles.
Sentez-les, 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 sentez-les au ciel.
De retour en onde avec Mathieu. Mathieu, ça a l'air que ça sort les poubelles à Dresden.
Ça essaye, en tout cas, de les sortir et de les mettre le plus loin possible. La ville de Dresden, en ex-Allemagne de l'Est, dans l'Est de l'Allemagne, qui est un peu l'épicentre là, d'une certaine extrême droite, une certaine, parce qu'il y en a plusieurs en Allemagne, depuis quelques années. Donc, le conseil municipal de la ville a voté un texte intitulé « État d'urgence nazi », qui vise à, renforcer la culture démocratique pour lutter contre les discriminations et l'extrême droite. Adopté par 39 voix contre 29 il y a deux semaines, début novembre, mais pas deux semaines, le conseil municipal constate avec inquiétude que des positions antidémocratiques, antipluralistes, discriminatoires et d'extrême droite allant jusqu'à la violence se multiplient à Dresde, ça c'est dans le texte. On veut le renforcement de la protection des minorités défavorisées, des droits de la personne, des victimes de la violence, des violences d'extrême droite, ainsi que l'engagement contre les origines de l'extrême droite et ses conséquences, notamment l'antisémitisme, le racisme et l'islamophobie. Il prévoit donc le soutien à l'initiative de la société civile œuvrant dans ce sens et veut améliorer l'égalité des chances dans le système éducatif. Donc, C'est le parti qui est à l'origine de cette motion-là, le parti municipal, s'appelle le Parti des Partis, qui est un parti satirique, qui s'appelle Le Parti, finalement. c'est eux qui ont imaginé la proposition, puis qui l'ont fait adopter. C'est des gens de gauche pas mal, mais assez ironique, un peu un genre de parti rhinocéros, un truc comme ça, mais où... la majorité des conseillers de gauche et les libéraux ont voté pour. Les conseillers de l'AFD et de la CDU d'Angela Merkel ont voté
contre. Très, quelle surprise!
Regrettant qu'elle se limite seulement à l'extrémisme de droite.
Seigneur.
Ben oui, évidemment, c'est sûr. Donc, les conseillers municipaux qui ont voté pour ont dit qu'ils voulaient plus que PJDA, qui est le principal problème adresse, continue à attiser la haine. Ils ont quand même fait des rassemblements de milliers de personnes dans les dernières années. Entre autres, au mois d'août, il y a aussi un dirigeant de l'AFD qui a fait un salut nazi en pleine place de la ville. Il y a eu des manifestations après avec le thème « Plus jamais » qu'on connaît bien en Allemagne. Et il faut dire que l'AFD, il y a eu quelques succès dans les derniers mois au niveau électoral. En septembre, en Saxe, où la ville de Dresde est, ils ont eu 28% des voix aux élections régionales. Et il y a deux semaines, le 27 octobre, en Thuringe, qui est une autre section de l'Allemagne de l'Est, une autre partie de l'Allemagne de l'Est, ils ont eu 24%, donc doublant leur score. Ils ont fini deuxième derrière le parti de la gauche radicale Die Linke, quand même, et devant la CDU d'Angela Merkel, mais les succès électoraux sont là, malgré qu'il y a des attentats d'extrême droite, malgré cette violence-là. Donc, c'est un peu ça qui inquiète beaucoup. Fait que Dresde, qui est quand même assez active, essaie donc de remédier un petit peu à la situation. Si j'ai deux minutes, peut-être, je voudrais saluer un auditeur qui nous a écrit quand même dans les dernières semaines par rapport au bon coup que j'ai fait il y a deux semaines sur le cégep de Jonquière et son programme pour les réfugiés. Ben, pas il y a quelques semaines, il y a deux semaines.
Oh, ouais.
Et il voulait juste nous préciser qu'il y avait aussi le même programme au cégep du Vieux-Montréal avec l'asso étudiante du cégep du Vieux qui existe aussi. Il y a un parrainage d'une personne réfugiée. Donc, Jonquière s'est un peu sûrement inspiré de ce qui se passe au cégep du Vieux-Montréal ici dans le centre-ville de Montréal.
Ben, merci. Merci.
Hey, ça fait plaisir. Ah oui, super. Et Dresden, on suit ça.
C'est ça. À l'écoute des Apatrides Anonymes. Simon, tu nous as préparé une sélection de films dans le cadre des RIDM.
Oui, dans le cadre des Rencontres internationales du documentaire de Montréal, j'ai épluché la programmation qui est foisonnante, qui est passionnante. C'est vraiment un festival majeur de cinéma à Montréal. Beaucoup, même dans les thèmes qu'on aborde à l'émission, a fallu que je fasse des retranchements, des choix, parce qu'il y en avait trop. Donc, tout ce qui touche immigration, défense de droits à l'étranger, etc. J'ai choisi 5 films présentés dans les jours qui suivent. Donc, il faut dire qu'on est actuellement en direct en studio le 14 novembre. Si vous nous écoutez en balado, ça reste quand même des films à voir si vous, évidemment, vous arrivez à les trouver ailleurs que dans le cadre d'une salle pendant le festival RIDM. Donc, je vous donne les dates des projections. Pour les salles, heures, billetterie, etc., on va aller sur le site ridm.ca. Premier film que je recommande, que nous, les Apatrides, on recommande, c'est... Excusez mon... je vais y aller, OK. Nipawistamasowin, nous nous lèverons, présenté les 15 et 16 novembre. Ça parle de l'assassinat de Colton Bushy, un jeune cri de la nation Red Pheasant, mort le 9 août 2016 d'une balle dans la tête reçue sur une ferme. Après un procès très médiatisé, l'accusé a été acquitté, soulevant toutes sortes de questions sur le racisme dans le système judiciaire canadien. La réalisatrice autochtone Tasha Hubbard va suivre le combat de la famille de la victime des prairies canadiennes jusqu'aux Nations Unies. Et évidemment, elle en profite pour dresser un portrait, un examen détaillé d'un système construit sur des siècles de domination coloniale. Deuxième film, dans le cadre des RIDM, Looking for Life, Cherche la vie, les 16 et 17 novembre. Premier long-métrage de Sam Ellison, on suit deux jeunes Haïtiens qui errent dans les rues de Tijuana. Ils se sont connus sur la route de l'exil, attirés par les États-Unis, mais ils commencent à réaliser l'impasse dans laquelle ils se trouvent, surtout depuis l'élection de Trump en 2016. On décrit le film comme un hommage poignant à tous les exilés pris au piège des politiques d'immigration. Je fais une petite parenthèse, j'en profite le 17 novembre, dimanche prochain, rassemblement qui s'appelle Debout avec Haïti, dimanche prochain, 17 novembre à 12h30 au Parc Toussaint L'Ouverture. Pour ceux les gens, c'est dans les habitations Jeanne-Mance, donc on pourrait dire Maisonneuve, Hôtel de Ville à peu près. Troisième film, Advocate, mon anglais.
Avocat. Avocate.
Oui, avocate, mettons. Présenté les 17 et 22 novembre. Portrait de l'avocate israélienne Léa Tzemel qui défend les Palestiniens. Elle a aujourd'hui 73 ans. Elle est engagée dans la lutte contre l'occupation dès les années 70 et on s'en doute, elle vit dans l'hostilité publique et médiatique assez violente en Israël. C'est réalisé par Rachel Leo Jones et Philippe Belaïch, qui dresse le portrait de cette femme passionnante, très engagée, et qui jette un regard pénétrant sur un système de justice très politique, très biaisé en Israël, surtout quand ça touche des Palestiniens. Quatrième film que les Apatrides vous recommandent, présenté les 15 et 18 novembre, s'appelle Overseas, film de la réalisatrice Sung Ah-Yoon qui nous plonge dans un des centres de formation des aides familiales aux Philippines. Les futurs domestiques ou nourrices qui iront ensuite travailler dans les pays du Golfe, en Europe, en Chine, au Canada. On leur apprend à s'occuper des enfants, des tâches domestiques, mais on les prépare aussi à l'épuisement, la maltraitance, les agressions sexuelles. Donc ça,
on les prépare à ça?
Oui, c'est des centres du gouvernement philippin et on les prépare à comment accepter, comment réagir à ce genre de situation. Ben, il faut probablement voir le film pour comprendre comment ça se passe. Ça doit être assez singulier, assez spécial. Et pour terminer cet agenda antiraciste, dernier film et cinquième qu'on vous recommande, s'appelle Exodus, présenté les 17 et 24 novembre. Documentaire qui raconte une situation kafkaïenne hallucinante. On est habitué de voir les migrants tenter d'entrer dans un pays. Par contre, c'est beaucoup plus rare que certains aient de la difficulté à sortir de leur pays d'accueil. Donc, c'est le cas en Iran pour des milliers de travailleurs afghans qui veulent fuir le pays depuis que les sanctions états-uniennes ont ruiné l'économie iranienne. Ils doivent subir des interrogatoires dans un des centres de retour du gouvernement iranien. Des entretiens composés de questions si personnelles que cela en devient parfois ubuesque, d'après la description officielle dans le guide du festival. C'est un documentaire de Baman Kiarostami. Donc, je vais vous souhaiter... C'était l'agenda.
Hey, merci, Simon. C'est vraiment d'avoir passé... en tout cas, d'avoir... C'est ça. Ben, passé au travers de toute la programmation et de nous proposer ton best-of.
Voilà, c'était le top 5.
Est-ce que tu peux rappeler le site si les gens veulent consulter la programmation?
C'est ridm.ca, tout simplement. Alors, bon cinéma.
Alors, c'est ainsi que se termine cette 15e édition des Apatrides Anonymes. Merci Simon, merci Mathieu.
Fait plaisir.
Ben oui, c'est toujours un plaisir.
N'est-ce pas?
Merci Marie-Ève.
On vous rappelle que vous pouvez nous écouter en balado en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. On se retrouve donc pour notre prochain rendez-vous le 28 novembre. Même heure, même poste. Et on se laisse en musique avec la pièce Abandon Ship de la formation Cool Keith and Hard Kiss.
Yeah.
Cool Keith and Hard Kiss. Gauges RPM reading 421.7 decimal 8 428 into 3 red code 5 Atlas 777 ultimate delta beaming through.
fly afro, leather with the bell bottom. Jumping, I got him. Super linguistic, faster master, extreme wing mark next. With sideburns like Shad, pass the man. Don't jump and ask the man. For autographs, I'm thorough. Let's do the math. War speed in every barrel. Come barrel, brown complexion. Parked in the space section. Galactic Nash, mean in the flying saucer. Underwater, maximum enterprise. Use people realize ray guns utilized. Atmospheric, with capes in the spirits. Autobionic, steel man, robosonic. Industrial material, real to real again. Aluminum foil, made of steel again. Model 604371189. Model design, African metallic alloy. Atlas 7, aluminum alloy. Atlas 7. Atlas 7, aluminum alloy. Atlas 7. Organization, illustrate cycle moving and texture. Chemical tactics will call for practice. Ability for centuries, roll with the enemies, altercation regional. Subliminal helmets down, focus on the time criminal. Zone west and south of the hemisphere. Global warrior captain, when I order you, U.S. ships, Navy catastrophes, the government evidence, cool with the president. Distance and motion. Soldiers by the ocean grew with emotion. Stick with the new wave. Arsenal deadly, computer atomics. Robot built to the X4 to the modest. Sequence frenzy, don't never attempt me. Range power driven. Terrible action, you miss by a fraction. Thermonuclear hydraulics, insomnia. We be bombing you. Metro 2000, sacrificing beams in our area. Revolve your area, the fourth competitor. Australian spies, codes, modules, antique residue. Retro traction, retro action, computer refinement. The last design win. A2000 spectrum. Atomic frequency with the MIDI through sequence. Turn up and amplify. We search altitude, mass and oxygen. Open up the box again. Abandoned ship, sharks and mermaids, sharks and mermaids. Abandoned ship. Captain Numak will come in. Captain Numak will. Captain Numak will come in. Captain Numak will.
Commissioner, remote star controls, energy function service, approach wind, torpedoes, coasting, analog gadgets, plus 2 pounds of army warfare, mid ships, missiles, cages of cables, whole stable, built, acrylics, and delivery, armory, camouflages, entourages for Vietnam, Scandinavian aviation service, intelligence centers, close and range, Metro 6, close forwards of terrestrial elements, images of distinctive unknown balls. Down the eastern shore, watch clones down 35 feet of in-deep current, great whites and hammerhead sharks. Recircle skulls off the hit bypass the Pacific coast, down to Australia, past the other human beings.